Madame Alliot-Marie, il est temps de développer la vidéosurveillance. Pareil, il y aurait des fuites du côté de plutôt la défense.
Bonjour, Christopher de Paris. J'aime bien l'émission Là-bas si j'y suis. Mais je trouve que France Inter a beaucoup d'humour d'enchaîner l'émission avec la pub de la Massive sur l'assurance vie, avec le loto Euro Million ou je sais pas quoi qui va nous faire gagner de l'argent. Et puis le tiercé aussi, ça va nous faire gagner de l'argent. Juste après une émission comme celle-là, je trouve que c'est la pointe d'humour qu'il nous fallait. Quand vous voulez, vous faites aussi une émission sur les chômeurs stigmatisés systématiquement, comme des arnaqueurs ou quoi que ce soit. Moi, je suis inscrit depuis le 11 septembre, j'ai toujours pas été indemnisé. Et quand je me déplace et que je commence un peu à montrer mon mécontentement, eh ben, on appelle la police aujourd'hui et on me fait évacuer. Mais j'ai déjà failli être radié deux fois quand même, hein, depuis que je suis inscrit. Pourtant, j'ai travaillé entre-temps, hein, d'intérim, tout ça. Mais bon, toujours pas indemnisé, ça fait 5 mois. Voilà, merci pour la pointe d'humour. À bientôt, portez-vous bien.
Salut là, bon, j'écoute votre émission en travaillant, je suis chauffeur de bus, hein, donc en faisant ma ligne, je vous écoute tous les jours. Et là, je vous écoutais avec l'histoire de la commission Attali, là, que les gamins de 6, 7 ans, on va leur apprendre l'économie, on va leur apprendre la valeur du fric, on va leur apprendre à respecter le fric. Ben, je vais vous dire, ça me met une boule, ça me donne envie de pleurer, vous voyez. De pleurer de voir ce monde de merde qu'ils sont en train de nous faire. Et Attali, hein, cette espèce de troufignol qui a monté la tête à Mitterrand, il peut aller se gratter le cul parce qu'on n'a pas besoin de sa commission de merde. Enfin, excusez-moi pour les termes malhonnêtes. C'était Stéphane, de Douai.
Bonjour, c'est Marianne. Eh bien, encore une fois, émission de grande qualité sur la catastrophe de la Société Générale. Merci beaucoup d'avoir invité ce copain de Daniel Mermet, chercheur au CNRS en économie, qui nous a un petit peu décrypté des choses que moi, en tant que simple citoyen, je ressentais aussi. C'est très bizarre, cette histoire de la Société Générale. Ça nous rapproche plus de toute cette grande crise des subprimes. On se dit quand on n'a pas d'action en bourse, bah vivement qu'il se casse la figure. Et puis en même temps, quand on prend un petit peu de recul, on se dit, malheureusement, quand il y a des cracks, eh ben, c'est pas des bonnes choses qui se passent derrière, c'est l'extrême droite qui revient, c'est des guerres. Alors, bon, on va les laisser se dépatouiller avec tout ça. Deuxièmement, j'ai une petite annonce à passer. Je voudrais faire une action contre le pass Navigo qu'on tient à tout prix à nous imposer à Paris. Et juridiquement, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le passage de la carte orange anonyme et gratuite, enfin pas gratuite, pardon, anonyme, au pass Navigo, que si on veut qu'il soit anonyme, on est obligé de payer. S'il y a quelqu'un qui est un peu juriste et qui a peut-être des renseignements sur des possibles actions contre ce pass, je laisse l'adresse de mon site internet. En fait, vous tapez Marianne Vincent se sont mariés sur n'importe quel site de recherche. Et si vous avez une aide à pouvoir m'apporter, je suis moi-même juriste, vous me laissez un commentaire en dessous de n'importe quel article. Voilà, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Au revoir.
Oh ben, je crois que ton invité se trompe, hein. Moi j'ai trouvé le coupable, hein. C'est la faute des 35 heures ça. Ah, ça fait pas de doute, ou Al-Qaïda. Soit Al-Qaïda ou les 35 heures. Ou peut-être les deux à la fois. Allez, salut.
Salut Mermet, je vais pas être original mais je t'appelle pour dire que j'ai les boules. Voilà, on est pas mal en ce moment à avoir les boules. J'ai entendu le petit Sarko là, et ouais, c'est ça qui me fout les boules, parce que ce mec-là me fait de plus en plus penser à Thiers. Thiers qui disait qu'il voulait s'appuyer sur la religion, sur les curés, pour élever le peuple. Parce que le peuple a besoin d'être élevé, tout seul, évidemment, il n'est pas capable de le faire. Et pour élever le peuple, donc, pour lui inculquer qu'il est sur terre pour souffrir et non pas pour jouir. Hein, ce sont les propres mots de Thiers. Et c'est à ça que veut nous ramener Sarko. Et quand il parle de flinguer 68, c'est à ça qu'il veut pas, qu'il pense aussi, je suppose. Ou tout au moins, c'est dans le même esprit, même s'il le fait pas exprès. Je pense pas qu'il ait suffisamment de culture pour ça. Mais bon, voilà, il y a des concordances comme ça. Allez, bon courage à tous, et salut.
Bonjour Daniel, ici une MGD. Nouvelle filiation à la famille de la Bassivissuie, auditrice modeste et géniale de droite. Eh oui, c'est à ce titre que je porte à l'attention de l'auditeur qui s'étonne des 34 500 euros de maquillage de Sarkozy, que Royal a dépensé pour ce même poste 51 700 euros. Je le laisse calculer le nombre d'heures qu'elle n'aura pas ainsi pu consacrer à l'élaboration d'idées de programme. Idées si rares que pour les protéger, elle a consacré, tenez-vous bien, 53 600 euros en équipement de détection installé dans son QG. C'est pas mal, hein? Allez, je vous embrasse tous. Marie-Françoise Duvar.
Oui, salut Daniel, c'est Jean de Marseille. Alors figure-toi, ça y est, c'est arrivé, j'ai été sondé. Oui, j'ai été sondé, c'est la première fois, j'ai 58 ans, et enfin j'ai été sondé. Donc j'ai eu un appel d'une charmante jeune fille de l'IFOP, et en plein après-midi, en semaine. Alors déjà, première remarque, il se trouve que je suis en convalescence d'une intervention chirurgicale, sinon je n'aurais jamais été chez moi en plein après-midi de semaine. Alors la question c'était, quel est le meilleur opposant à Nicolas Sarkozy? Alors moi, j'aurais eu envie de dire par exemple Laurent Fabius, mais non, j'avais le choix qu'entre quatre noms, Royal, Delanoé, je ne sais pas pourquoi, Bayrou et Besancenot. Alors là-dedans, moi j'ai répondu Besancenot, à défaut de meilleurs candidats. Mais ça veut rien dire. Et ce matin, j'ai entendu les résultats à France Inter. Besancenot a eu 14% de réponse. Et la première, évidemment, ça a été Royal. Mais tout ça, ça n'a strictement aucune réalité, puisqu'on n'a pas le choix de donner d'autres noms, et on nous propose que ces quatre noms. Donc, c'est une question fermée qui n'a vraiment peu d'intérêt. Voilà, maintenant je peux le dire, j'ai été sondé, donc je sais de quoi je parle. Merci, salut.
Intéressant, hein, ce témoignage est très intéressant. Les sondés ainsi se fabriquent l'opinion, parce qu'à partir évidemment de ces résultats, on va éditorialiser, on va tirer des plans sur la comète, etc. Et c'est quand même intéressant. Merci aussi pour la MGD. L'auditrice modeste est géniale. De droite, comme s'il n'y avait que des AMG de gauche. Il y a des AMG de tous les côtés et on en a la preuve quotidiennement dans la boîte vocale de la Bassigissou au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on va retourner en Indonésie. Vous le savez sans doute, Suharto, l'ex-dictateur indonésien, est mort ce dimanche 27 janvier à l'âge de 86 ans. Et ça va être l'occasion pour nous de retourner en Indonésie où nous étions en 1998, exactement le 22 mai 1998, lors de la chute de Suharto. Ça a été une nuit particulièrement violente, d'attente et décisive pour la vie de cet immense pays qu'est l'Indonésie. Et nous y étions, et on a eu envie aujourd'hui, avec Guy, de revivre et de vous faire revivre cette nuit capitale dans l'histoire de ce pays. Et je vais d'abord évoquer rapidement à la fois l'Indonésie et le parcours de Suharto. L'Indonésie, c'est 230 millions d'habitants, c'est 17 000 îles, c'est un grand ensemble, et on méconnaît ce pays chez nous. Java, Bali, Bornéo, ça dit quelque chose, mais ça reste assez vague. 350 années de colonisation hollandaise, indépendance 1949 et émergence d'une grande figure qui est celle de Soekarno. Il ne faut pas confondre Soekarno et Suharto. C'est deux personnages tout à fait différents. Soekarno, c'est celui qui, en 1955, participe à la conférence de Bandung, la conférence des non-alignés, et avec Nehru, avec Nasser, il s'agit de constituer une force politique capable de se soustraire à l'emprise des deux grands blocs à l'époque, le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Et évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas plaire au camp occidental, aux États-Unis, d'où l'arrivée au pouvoir en 1965, le 30 septembre 65, de Suharto, par un coup d'État soutenu par les États-Unis. Et là, il va s'en suivre une purge, un massacre, on a parlé de génocide, contre les communistes, entre guillemets, mais ça ne se limitera pas aux communistes, ça ira à leurs sympathisants et au peuple en général. Et le chiffre, le nombre de victimes croûment admises est de 500 000 victimes. Je dis bien 500 000 victimes, même si d'autres sources, certaines sources donnent des chiffres bien plus importants. Communistes, sympathisants, simples paysans. C'est une répression et des massacres d'une violence inouïe et qui est suivie de déportations dans certaines îles, dont la sinistre île de Bourou, qui sera très longtemps l'un des synonymes du goulag indonésien. Mais la répression continuera sur les familles, avec des assignations à résidence, des répressions, des surveillances, de tout ce qui peut ressembler à l'ombre du début d'une opposition au régime installé par Suharto et son ordre nouveau. Actuellement, par exemple, il arrive que les touristes ébahis de Bali s'aperçoivent soudain qu'ils sont au-dessus d'un charnier des victimes de cette époque-là. Donc, 32 ans de dictature pour Suharto, mais avec une vitrine démocratique. Les États-Unis sont derrière, le camp occidental est derrière, et qui dit dictature dit stabilité, et qui dit stabilité dit un endroit intéressant pour les investisseurs. D'où, effectivement, les investisseurs investissent en Indonésie, d'où une certaine croissance, mais aucune redistribution, c'est-à-dire, on va dire, le niveau augmente en Indonésie, mais sans aucune redistribution, c'est-à-dire que c'est une petite partie de la population qui s'enrichit, alors que l'autre demeure ou continue ou s'enfonce dans la pauvreté, mais il y a toujours en permanence cette répression. En 97, c'est la crise financière en Asie qui frappe l'Indonésie et qui va déclencher, on avait fait des reportages à ce moment-là en 97, des émeutes de la faim. Et il y a une opposition qui se met en place, surtout dans le milieu étudiant, avec trois lettres qui sont KKN, KKN, et ça veut dire corruption, collusion, népotisme. Et c'est ces trois mots, effectivement, qui définissent à ce moment-là, qui caractérisent le pouvoir de Suharto, qui démissionne, donc, je l'ai dit, le 21 mai 1998. Il faut rappeler que Suharto fut sans doute le chef d'État le plus corrompu de tous les temps. Et ça, c'est une ONG qui s'appelle Transparency International qui l'affirme, tout comme la Banque mondiale, dont pourtant il fut un bon élève. Lui et sa famille auraient détourné entre 15 et 33 milliards de dollars, dont 9 milliards seraient dans des banques suisses ou autrichiennes. Et ça, c'est une source du Time à Londres. Les 6 enfants du président ont bâti des empires financiers colossaux. Il faut dire qu'en dépit de toutes les tentatives de poursuite, d'efforts faits par des ONG, par des particuliers, par des associations, par des partis, il n'a pas été possible de récupérer cet argent détourné par le clan Suharto, et il est mort dans l'impunité. On ne peut pas évoquer non plus Suharto sans parler du Timor, de Est Timor, du Timor oriental. Il faut rappeler rapidement là aussi ce qui s'est passé sur cette partie de l'île de Timor. En 1975, après la révolution des œillets, c'est l'indépendance de cette colonie portugaise, mais aussitôt, et toujours soutenue par les États-Unis, et grâce à des armements fournis, entre autres, par la France, Suharto se lance dans la répression et l'occupation du Timor oriental. Des massacres s'ensuivent qui feront environ 200 000 morts, soit un tiers de la population. Ceci en même temps que les massacres des Khmers rouges au Cambodge. Et au bout de 27 ans de lutte, vous vous en souvenez peut-être, l'indépendance du Timor sera proclamée en mai 2002. Voilà un aperçu de la vie de cet homme qui est mort ce dimanche dernier. Et il faut souligner que les États-Unis et les institutions de Bretton Woods ont toujours activement soutenu Soeharto. Vous avez un grand papier que je découvre dans le numéro du Monde de ce jour. Et sans doute d'autres papiers à venir, mais c'est une région du monde que les Français connaissent en principe assez mal, c'est lointain, ça fait pas partie de notre sphère. Je crois intéressant de s'y intéresser aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour, Daniel Mermet et son équipe. Là, je viens d'entendre quelque chose qui m'a bien fait rire. À la radio, j'entendais des journalistes qui larmoyaient sur le fait que TF1 était en train de perdre des parts de marché, des parts d'audience, parce que, eh bien, ils sont concurrencés, paraît-il, par la TNT, par les chaînes Internet, par je ne sais pas quoi, par le câble. Eh bien, quand on a écouté l'émission que vous avez faite et qu'on la recharge sur le net, sur TF1 et la manière un peu scandaleuse dont elle est passée au privé à une époque, eh bien, on se dit que c'est bien fait pour leur gueule. Hein, bien fait pour leur gueule. Salut, et puis continuez dans la ligne où vous êtes. Au revoir.
Et voilà le résultat en Italie. La fausse gauche au pouvoir, et hop, hop, ça bascule encore à droite. Et va revenir l'autre, Berlusconi. Et ils ont sabré le champagne, vraiment, c'est... Voilà, quand c'est une fausse gauche, ça marche pas. Il nous faut une vraie gauche au pouvoir, sinon c'est la droite qui revient à chaque fois. Ça a raté encore. Bien, quand on propose de privatiser Air Italia. C'est ça, la fausse gauche. Privatiser, vous allez tout privé encore. Non, ils ont rien compris, il a rien compris en monoprodie, il a rien compris. Putain, c'est pour que ça recommence encore.
Salut à toi Daniel et salut à tous les AMG. C'est pour vous faire remarquer que dans le monde d'aujourd'hui, le vendredi 25 janvier, nous apprenons que le directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris, ou DPGPP, a été congédié directement par Nicolas Sarkozy, qui apparemment n'a rien d'autre à lui reprocher à part sa politique avec les sans-papiers. Donc bah voilà, je pensais que ce serait intéressant si tu pouvais faire une émission là-dessus. Allez, à bientôt, et puis merci pour tes émissions, salut à tous les AMG.
Allô ? Oh putain, c'est le chauffeur de bus. Tu sais qui j'ai vu à Nîmes, Daniel ? Jean-Jacques Bourdin, l'homme des sous-marins. Voilà, il est venu dédicacer son livre, sa biographie, au Carré d'Art, à Nîmes. Eh bien, si c'est pas un scoop, allez, à la prochaine.
It's time to wake up. Thank you. Jam bangun Anda telah tiba. Terima kasih.
We don't need money. We want reformasi.
C'est très beau, hein. C'est vraiment le mois des bras levés. Hein. Il y a des ombres chinoises sur la glace, c'est la vitre arrière du bus, et c'est un garçon et une fille. Je sais pas si... Non, les photographes sont tous en train de la louper, cette photo. Il n'y a que nous qui la voyons. C'est absolument sublime, sublime, et personne ne la voit. Je vois aucun appareil photo, ni aucune caméra dirigée vers l'arrière de ce bus, avec ces deux silhouettes en ombre chinoise, alors qu'on est au pays du Wayang, à Java, de ce garçon et de cette fille. Maintenant, c'est un autre bus qui arrive, avec des points qui sortent de partout. Des bras levés, des bandeaux. Il est magnifique. Ils sont remontés, on se battra jusqu'au bout. Ce n'est qu'un début, on peut deviner tout à fait les slogans, c'est pas la peine de parler. Indonésien ce soir, là, on comprend tous, c'est vraiment un moment universel, c'est le moment où les choses changent. Et on s'en fout de ce qui se passera demain. Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanti. Là-bas, si j'y suis, mai 98, Jakarta.
Flight number 2, arriving from New York.
This is CNN International.
The biotechnology industry may not be short on ambition, but profits often require patience. Companies are working on developments which could revolutionize healthcare, food processes, and more. Analysts say that could deliver more growth and eventual profits. Cecil McCarthy reports.
Sur l'Empire, CNN, le soleil ne se couche jamais. Rien n'échappe à l'œil de Big Brother America. Mais peut-être quand même derrière un tout petit pli, ceci. À Jakarta, le 22 mai 1998, au feu rouge, dans les embouteillages, parmi ceux qui font la manche entre les bagnoles, parmi les petits marchands, il y a un gars qui vend une feuille de papier. Une simple feuille, mince feuille de papier, où l'on peut lire ceci. La liste interminable des sociétés, interminable des banques, contrôlées par Suharto et sa famille. Au moment où l'Indonésie s'effondre, n'en finit pas de s'effondrer après que les spéculateurs aient quitté le navire, on se demande si l'on osera arrêter Suharto, le juger, qu'il rende l'argent volé, une partie au moins de l'argent volé, à l'Indonésie, aux Indonésiens qui commencent à crever de faim. Espérons-le. Mais d'abord, ce qui est renversant, ce qui est bouleversant, c'est ce geste, ce minuscule geste au feu rouge, d'oser vendre cette feuille de papier. Il y a encore 3 mois, c'était impensable. Les lois anti-subversion depuis plus de 30 ans en Indonésie interdisaient ce genre, évidemment, de gestes. Notre ami Item, journaliste, un des meilleurs journalistes indonésiens, nous a raconté comment il a fait 30 mois de prison pour avoir, 30 mois de prison, pour avoir publié un article sur la fortune de la famille Suharto. C'est dans ce pays que nous allons, au bout de 32 ans de dictature, d'étouffement, de peur et de terreur intégrée, incorporée. Il n'y a plus besoin de flics au bout d'un moment, plus besoin d'indics, juste un petit coup de terreur arbitraire de temps en temps et les têtes rentrent dans les épaules. Le flic est à l'intérieur de chacun. Après des années où les investisseurs et spéculateurs se sont fait du beurre, beaucoup, beaucoup de beurre, soudain, ils se sont retirés, ils ont enlevé leurs billes en perdant peut-être quelques plumes et en lâchant, en balançant lâchement leur ami Suharto et sa petite famille. Aujourd'hui, sur Inter, là-bas si j'y suis, 22 mai 1998, Jakarta, la nuit de tous les dangers. Hier, jeudi 21 mai 1998 au matin, le général président Suharto, devant les caméras de télévision, est venu présenter sa démission après 32 années d'un pouvoir sans partage sur ce grand, cet immense pays de 200 et quelques millions d'habitants qu'est l'Indonésie. Un moment énorme, bien au-delà de l'archipel indonésien. On scrute et on regarde le visage de cet homme. Dans les heures qui viennent, c'est M. Habibie, son bras droit, qui est nommé président de la République de l'Indonésie. Il annonce un certain nombre de réformes, mais pendant ce temps-là, les étudiants qui, depuis des semaines, occupent le Parlement, y sont toujours et attendent, espèrent plus, espéraient beaucoup plus que ça. Qu'espéraient-ils? Que Suharto parte? Suharto parti, que veulent-ils? La réforme, les réformes. Mais on n'est qu'à l'éveil d'une conscience politique dans ce pays. Et en fait, on peut vraiment dire que ce n'est qu'un début en Indonésie. Ce soir-là, avec Give et un ami, Patrick, nous sommes aux abords du Parlement. Journaliste autour d'un officier.
Yeah, I'm right in the middle of shooting something. Tempat dulu di ini kosongkan tempat MPR.
MPR mau dikosongkan sekarang, yeah. Sekarang juga, ouais. Juga yeah. Ils veulent vider le parlement maintenant.
Est-ce que ceux qui sont à l'intérieur sont d'accord pour partir?
Itu yang tidak mau. Tidak mau keluar.
Ini mau
yang di dalam pahlawan reformasi, yang
benar. Pahlawan ya, c'est des héros de la réforme, des héros de la réforme.
Sont des héros de la réforme.
Ils sont à l'intérieur et ils ont pas l'intention de sortir.
Voilà des camions anti-émeutes avec des grillages, des boucliers. C'est vraiment l'évacuation qui va avoir lieu. Ça va chauffer. Voilà les véhicules anti-émeutes qui nous cernent. Combien de personnes sont dedans, vous avez dit?
1000.
Un millier seulement.
1000.
Tidak, sebelum berhasil untuk sidang istimewa untuk pemilihan presiden yang baru.
Tant que l'Assemblée n'aura pas été convoquée, ils refusent de sortir.
Sidang istimewa pemilihan presiden yang baru berdasarkan suara rakyat.
Donc ils veulent une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau président.
Pourquoi vous les appelez les héros de la réforme? Vous avez dit ce sont les héros de la réforme.
Karena memperjuangkan Orde Baru 98 nih untuk ada perubahan.
Parce qu'ils se battent pour l'ordre nouveau de 98.
Balai de caméra, on a l'impression que les caméras sont en train de se filmer entre elles. Là, on s'écarte avec le cercle des militaires et des journalistes. C'est vraiment la même mêlée, hein. Tout le monde se trouve dans la même histoire. Là, on aperçoit les deux dômes, le grand dôme vert. Il y a simplement, de manière extraordinaire, une banderole noire en travers, comme ça, comme un brassard de deuil qui est entre deux poteaux devant ce Parlement où des milliers de gens sont venus dans ces jardins. Journalistes, habitants de la ville, étudiants de toute l'Indonésie sont venus. Voilà, maintenant c'est la fin.
Il y a l'armée qui entre, l'armée, tous les marins.
Il y a un autre camion.
Il y a des camions militaires qui arrivent, il y a des militaires qui entrent en courant. Et qui entrent en courant, on les voit de l'autre côté.
Il y en a d'autres qui arrivent par derrière, ça va cogner.
Alors on aperçoit les militaires qui foncent vers les bâtiments du Parlement, où les étudiants sont regroupés. On se dit qu'il y a des journalistes parce qu'on voit des éclairs de flash et des éclairages de caméra. C'est assez confus encore pour l'instant.
On reçoit des ordres de se reculer de la grille, la police militaire.
Ouais.
Qu'est-ce que tu dis?
Il dit qu'il faut aider les étudiants, il ne faut pas rester debout là comme ça, là. Allez-y, aidez-les.
Là, on voit d'autres détachements de militaires qui entrent maintenant dans l'enceinte du parc du Parlement.
C'est des Marines, c'est tous des Marines. La police militaire garde l'extérieur, mais c'est les Marines qui entrent.
Alors les Marines, ils ont une bonne réputation. Ils ont une réputation
ils ont
d'être...
une réputation d'être plutôt cool. Donc on conserve l'espoir que l'expulsion se passera en douceur.
Là, on voit encore des militaires qui entrent en galopant dans l'enceinte. Ça va faire beaucoup, hein.
Il y aura bientôt plus de militaires que d'étudiants à l'intérieur.
Au moment même où dans le monde entier, on voit des images de la gaieté des Indonésiens et des étudiants à la suite de la chute de Soeharto. Immédiatement après, son successeur Habibie fait charger, envoie les militaires, écarte les journalistes. C'est le chant patriotique,
c'est
la Marseillaise indonésienne.
C'est des chants patriotiques, c'est Ayo Ayo Bandung, c'est le chant du soulèvement, c'est l'équivalent du chant des résistants, du chant des soulèvements.
Il se réfère à 45 là.
Il se réfère à la lutte pour l'indépendance.
Sur le pont là au-dessus, il y a foule, hein, on l'aperçoit.
C'est la foule qui supporte les étudiants, qui leur crie de se maintenir à l'intérieur, de ne pas sortir, de résister.
Oui. Vous les soutenez?
Yes.
Madame Asi Soasendiri.
Yes.
You student?
Il est étudiant lui-même.
Et pourquoi vous n'êtes pas dedans?
Jam masuk tadi dibatasi jam 5 sore. Batas masuk terakhir. Deadline.
À partir de 5h du soir, plus personne n'a pu entrer à l'intérieur. Donc tous ceux qui étaient sortis.
Ils vous ont interdit de rentrer à partir de 5h du soir.
Ouais.
Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent avoir des armes à l'intérieur?
Senjata mahasiswa is brain.
La seule arme des étudiants, c'est leur cerveau.
Voilà des camions militaires qui arrivent à nouveau. C'est marrant parce que c'est précédé par le petit marchand de cigarettes, de glace et de brochettes. Le marchand de brochettes
qui bloque 5 camions militaires.
Ini bukan demokrasi lagi, sudah rezim militer.
C'est plus de la démocratie ici. Il n'y a plus de la démocratie, mais un régime militaire.
Hak asasi manusia. Hak asasi manusia.
Ici, les droits de l'homme.
Human right.
Les droits de l'homme, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. La vie humaine n'a aucun prix.
Nomor satu, prioritas adalah kekuasaan.
La première des priorités, c'est le pouvoir.
Et l'argent. Money.
Siapa yang memegang kekuasaan, dia yang punya.
Celui qui tient le pouvoir tient l'argent. Ou l'inverse.
Sang ou pas bon sang, pour l'instant, personne ne peut savoir comment les choses vont évoluer cette nuit du 22 mai à Jakarta. Évacuation du Parlement où pendant des semaines, des jours, ça a été tout à fait l'ambiance qui était celle de l'Odéon à Paris en 1968 ou de la Sorbonne, c'est-à-dire d'une sorte de foire à la parole, des gens qui occupent des lieux qui ne sont pas prévus pour eux, ni pour leurs paroles, ni pour leurs gestes. C'est ça d'abord qui s'est passé, c'est-à-dire que ce que dit ce garçon dans la rue, comme ça nous sommes dans la rue, devant le Parlement, à des journalistes parlant des droits de l'homme, de la liberté, de l'argent et du pouvoir, c'est des choses qu'il n'aurait pas osé dire il y a encore quelques semaines. Oser dire dans la rue à un journaliste. Mais bien sûr que les événements ne surgissent pas lorsque les journalistes arrivent. Il y a de lente fermentation. L'histoire est lente et l'histoire est violente et risque tout à fait de le devenir d'une seconde à l'autre.
Membacking
rejim Soeharto dan rejim baru Habibie.
Le chef des forces armées, le principal soutien de Suharto, et il soutient également le nouveau régime de Habibi.
Rien n'a changé, quoi. Pour vous, rien n'a changé.
C'est un système qui se maintient, il n'y a aucun changement. Kalau gitu mahasiswa tidak akan mendukung Habibi.
Ya, saya kira sudah pasti.
Oui, mais maintenant il est déjà clair que les étudiants n'accepteront pas les propositions de Habibi, ne soutiendront jamais Habibi.
Voilà. Tadinya hanya kelompok-kelompok kecil, sekarang seluruh mahasiswa bergabung.
Au départ, il n'y avait que de petits groupes isolés qui luttaient contre Suharto, et maintenant, tous les étudiants sont unis contre le régime.
Ça a commencé quand ?
Il y a trois mois. Les premiers ont commencé il y a trois mois.
Il y a trois mois, mais auparavant, il n'y avait rien.
Sebelumnya itu bukan dari mahasiswa, dari aktivis, hak asasi, tapi banyakan hilang atau ditahan.
Avant cela, l'action n'était pas le fait d'étudiants, mais le fait d'activistes luttant pour les droits de l'homme, de gens qui ont tous été arrêtés, condamnés ou qui ont disparu.
Est-ce que vous êtes partisans d'élections ? Vous demandez des élections ?
Ils sont tous partisans d'élections.
They use the power.
Ils utilisent le pouvoir.
They use the power to clean the parliament from the student. The student have no power.
Les étudiants, ils ont rien, ils ont pas de pouvoir, et ils sont en train d'utiliser la force pour les mettre dehors du parlement.
The student just want the clean parliament, the clean government. That's all we have.
Juste un parlement propre, un gouvernement propre. C'est tout ce qu'ils veulent.
It's all.
C'est ce qu'ils disent vouloir, cette jeune femme a sans doute 13 ans. Mais il y a quand même ce moment d'exaltation que nous vivons avec eux à Jakarta et qui nous renvoie à notre propre histoire, pas seulement française, mais universelle. Le moment où les peuples se disent « nous ne sommes rien, soyons tout ». Et c'est ce tout qui est en jeu ce soir-là à Jakarta. Bien sûr que la traduction, ce sera des élections. Bien sûr que ce sera un parlement, un vrai parlement, et non plus un parlement croupion, un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, c'est moins que ça et beaucoup plus que ça. Ce qui nous parvient à travers les téléphones portables qui font circuler, qui accélèrent la circulation de l'information comme de la rumeur, et ce qui est un piège supplémentaire pour les journalistes, et qui est un piège terrible dans ce genre de moments très forts, ce qui nous parvient, c'est les rumeurs de coup d'État. C'est que, alors que nous sommes là, devant le Parlement, à voir comment les autorités, les forces militaires vont évacuer les 1000 étudiants qui sont à l'intérieur du Parlement, des rumeurs de coup d'État. On dit que général Prabo serait prêt à faire un coup d'État, qu'il aurait avec lui des unités qui seraient en train de marcher sur le palais présidentiel, et que dans les heures qui vont venir, dans les minutes qui vont venir, on nous annoncera un coup d'État, et que les lumières s'éteindront sur Jakarta à 2h du matin. Il y a plusieurs rumeurs qui concourent à dire ça et qui nous parviennent, et que ce que nous apercevons à gauche des toitures du Parlement, c'est-à-dire la tour de la radio et de la télévision, eh bien, c'est à cet endroit-là que le coup d'État se manifestera, en prenant la radio et la télévision. Donc on attend avec une certaine angoisse, il faut dire, c'est 12h du matin.
On ferait mieux d'aller dans le nord de la ville. Il se passe des choses dans le nord de la ville.
Qu'est-ce qui...
Ils attirent l'attention ici. Mais
qu'est-ce qui se passe dans le nord de la ville ?
Ah, il n'en sait rien. Il n'en sait rien, mais il a entendu dire par les autres qu'il se passait des choses actuellement en ville.
Où ça ? Au palais ? Au palais présidentiel ?
D'Istana. Ouais, probablement au palais présidentiel.
On dit qu'il y a un coup d'État en ce moment. On raconte qu'il y a un coup d'État, c'est possible ?
Pergantian, Prabowo diganti.
Ah, donc Prabowo, il semblerait bien que Prabowo ait été remercié.
Il a été viré, mais ça c'est pas un coup d'État ça.
C'est pas un coup, c'est un nettoyage au sommet de l'armée.
untuk menjaga citra bahwa keadaan sudah tenang. Jadi mahasiswa ada di sini sebagai simbol kan tadi pun dibersihkan.
C'est les étudiants au sein du Parlement sont un symbole qu'il convient d'effacer maintenant pour faire revenir les choses à la normale.
Puis, vers 2h du matin, eh bien, pas de coup d'État. Pas de coup d'État. Et la situation bascule. Après une tension, les choses ont l'air de se détendre. Et on apprendra que des pourparlers entre un représentant des forces armées et des représentants des étudiants ont abouti à un accord qui est l'évacuation du Parlement, des étudiants. Dans des bus, dans des bus de la ville. Donc c'est comme ça que l'évacuation va avoir lieu, dans des vieux bus très déglingués, qui montrent que tout ce qui est de l'ordre public et de l'ordre collectif est tout à fait méprisé dans ce genre de ville. Mais ça c'est secondaire pour l'instant. Donc les étudiants vont d'une seconde à l'autre sortir de l'enceinte du Parlement à bord de ces autobus. Alors voilà, c'est absolument superbe. C'est vraiment des images superbes comme on voit quelquefois dans sa vie sur les bus, sur les cars, les étudiants debout avec des drapeaux rouges et blancs. Tout ça s'est éclairé par les caméras. C'est très beau, très très beau. Par les caméras de télé et de caméras de télé. On voit pratiquement plus de militaires. On a ouvert les portes métalliques du parc du Parlement. Et c'est des bus, tout simplement des bus, qui vont sortir de là avec les étudiants qui ont accepté, après des négociations, de se rendre à l'université. Et là-bas, on aperçoit dans la pénombre les deux, le double dôme vert avec une sorte de A en béton au milieu qui sera le symbole de ce mois de mai de Jakarta. En même temps, alors est-ce que c'est pour pimenter la fête? Est-ce que c'est la tension, la pression qui fabrique ça? Là, on recule, on nous fait reculer, ça applaudit. Les gosses, les étudiants saluent, le public les applaudit, même les journalistes applaudissent. Les héros de la réforme, comme on les appelle ici. Ils sont rejoints par d'autres étudiants qui arrivent. Là, c'est très beau. Il y a une fille qui tend comme ça les deux bras levés, un morceau de drapeau rouge et blanc. On montre le bandeau rouge et blanc. Là-bas, il y a des jeunes avec des porte-voix, des haies de journalistes, des applaudissements. Plus de militaires, pratiquement plus de militaires. Enfin, sauf le camion militaire qui est derrière nous. Et on ne sait pas très bien comment les bus vont sortir. Voilà les gosses qui sont... Et voilà les étudiants font des signes, envoient des baisers. C'est vraiment les stars, c'est vraiment les vedettes. La police militaire font écarter la foule. C'est une foule de caméras. Et c'est les caméras même qui éclairent cette sorte de ronde de nuit bizarre comme ça. Ça photographie tous les côtés. N'importe quoi en ce moment peut tourner à l'émeute. N'importe quelle petite chose peut faire tout péter, faire tout basculer. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 secondes, 1 minute. Okay.
l'art national indonésien.
Tohu-bohu, magnifique, vraiment magnifique. C'est vraiment des moments heureux et les mômes sont heureux. Il y a une intensité formidable dans tous ces... qui se lancent des trucs, des cadeaux, des clubs pour leur lancer des trucs, des petites bouteilles d'eau, des cigarettes. Ça rigole et ça sourit de partout. C'est vraiment bon enfant. Là, il y en a encore plus. Il y en a vraiment des quantités sur le bus. Et il salue, malgré tout, on dira tout après, on dira tout ce qu'on voudra par la suite. En quelques semaines, ils ont fait tomber une dictature. Ces gamins ont contribué à faire tomber une dictature qui durait depuis 32 ans. Alors les analyses, ce sera après. Les considérations, ce sera après. L'histoire, on l'écrira après. Pour l'instant, c'est aujourd'hui et c'est pas demain. Avoir 5 ans, cet enfant des rues avec une guitare qui est bien plus grande que lui, et c'est ça le triomphe de la rue, et ça le triomphe aussi des peuples. C'est pas le gamelan, c'est pas la culture javanaise, c'est une sorte de volonté, de clin d'œil international qui se donne à voir là devant ce parlement qui est évacué, où personne pour l'instant n'a l'air d'avoir perdu la face.
Les militaires sont acclamés par la population.
La marine avec le peuple. Vive la marine, vive les marins. Ils ont bien réussi leur coup de pub, ceux-là, ce soir.
Tu sais, moi, j'ai gueulé, c'est reste avec nous, hein. Viens, on va parler avec la dame, viens voir.
Qu'est-ce que vous pensez ce soir? Vous êtes debout sur ce...
Perasaan saya senang sekali ya mendengar bahwa kita akan reformasi, kita akan berhasil ya, akan...
Je suis très contente parce que je sens que là, nous allons gagner et nous allons obtenir la réforme que nous voulons.
Mais vous n'êtes pas étudiante.
Sympathisante.
Je suis juste une sympathisante.
Ah, bon, est-ce que vous êtes contente de ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous êtes contente de la nomination du nouveau président?
Non, kalau bisa ya kita adakan secepatnya pemilu lagi, secepat mungkin ya.
Non, il faut aussi vite que possible avoir des élections, faire des élections.
Des élections et quoi? Qu'est-ce que vous voulez d'autre?
Kita bisa harga-harga diturunkan nomor satu kita ya. Reformasi total, kita rombak semua ya.
Baisser les prix, tout changer et obtenir une réforme, la réforme totale.
Ah, c'est bien.
Et comment vous êtes venu ici alors? Comment vous avez appris ce qui se passait là?
Saya tinggal di komplek Kodam, tanah kusir.
Oh, elle habite dans le complexe militaire de Abri.
Suami saya tidak tahu saya begini ya.
Mon mari ne sait pas que je suis ici.
Votre mari ne sait pas parce que lui il est pour Soeharto. Vous êtes pour la réforme?
Tentu.
Oui, bien sûr.
Of course.
Mais votre mari, lui, il est militaire.
Non.
Non, c'est anonyme.
Il est bientôt gêné.
C'est la Emma Bovary de Jakarta qu'on a trouvé. J'ai pu s'éclater avec les étudiants.
Parce qu'elle est euphorique.
Hein. Ouais, elle est euphorique. Elle a planté son militaire de bonhomme.
Elle a un petit suivi de cortège en agitant sa veste au-dessus de sa tête.
C'est des grands moments où l'histoire d'un pays bascule, mais aussi des fois l'histoire d'une personne. Là, il y a le tout petit garçon qui jouait de la guitare tout à l'heure sur sa toute petite guitare. Il a 5 ans, il est en train de fumer des clopes. Hello. Réformation totale.
Ok.
Je l'arrête parce que je vois une femme. Je l'arrête parce que je vois une femme qui a son enfant, un petit qui doit avoir un an ou deux. Elle le dresse à bout de bras vers les étudiants qui sont sur les toits des bus, qui applaudissent, qui lèvent les bras, poings levés, mains tourné vers le ciel, beaucoup de flashs. C'est très beau parce qu'il y a tous les... Ah, la circulation reprend. Parce que là, en fait, on est au milieu de l'autoroute vide qui est interdite à la circulation pour l'instant. Il y a des gens qui se sont couchés sur l'autoroute. Qui se sont couchés sur l'autoroute, allongés comme ça, qui regardent les bus des étudiants passer et les drapeaux rouges et blancs qui flottent partout sur les bus. Et c'est toujours pareil, c'est le moment où on change de territoire, on change de position, on s'accapare comme ça l'espace public. Et de l'autre côté de ce grand boulevard à 2x4 voies, qui est complètement vide pour l'instant, de l'autre côté, c'est le Parlement qui a été rendu maintenant aux militaires. Et de l'autre côté, c'est une haie de militaires, c'est dans la pénombre, il y a encore des camions militaires qui entrent dans l'enceinte du Parlement. Le Parlement maintenant a été évacué et ça redevient le lieu du pouvoir, c'est-à-dire le lieu de l'armée, le lieu protégé, le lieu de la violence et de la puissance. Et puis il y a ces deux avenues larges, vides, comme une sorte de no man's land. Et de l'autre côté, les manifestants, les étudiants qui ont quitté le Parlement, qui ont été virés du Parlement ce soir et qui rejoignent leur université. Voilà, merci à tous. C'était une seconde diffusion de cette nuit du 22 mai 1998. L'expulsion des étudiants qui occupaient le Parlement de Jakarta à l'occasion de la démission de Soeharto, du dictateur Soeharto, qui est mort ce dimanche à Jakarta. Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Vanctil. Merci aux étudiants, Bernard Lestrade aussi, à Poulapi, à Mike et Jean-Pascal Elbaz, directeur du Centre culturel français de Jakarta à l'époque, à Jean-Marc et à Patrice Levent qui était notre traducteur. Et puis par ailleurs, nous vous signalons que le festival Bobine Sociale se tiendra du 28 janvier au 3 février au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage dans le 20e arrondissement de Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org. Là-bas.org. La technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassus et Yann Chouquet et Koyen Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry qui s'occupe aussi du répondeur et qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.